Bonjour, content d'être des vôtres. J'ai apprécié la netteté du PowerPoint ce matin, j'étais impressionné. Voilà, on va venir à cette journée de Pâques. Cette journée de Pâques où on va se réjouir pour la résurrection, qui devrait nous donner au fond de nous-mêmes de nouveau une véritable espérance. Et quelque chose qui nous permet de pouvoir dire « Je sais en qui j'ai cru, mais je sais aussi où je vais. » Et c'est ça qui m'importe en tant que chrétien. J'aimerais revenir sur les événements qui se sont passés depuis dimanche et revoir un peu le chemin que le Seigneur a suivi et voir quel effet ça peut faire à l'intérieur de nos vies. On a toujours dit « Jésus est l'exemple parfait » de la manière à laquelle nous devrions aussi nous-mêmes vivre. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier? Merci. Et vous avez jeté à l'entrée des rameaux, vous avez mis... Alors moi, je leur avais proposé, j'ai dit à Villers, j'ai dit, je regrette, vous auriez dû mettre quand même un tapis rouge avant que je rentre. C'est un peu ça l'idée quand même de ces rameaux qui ont été posés. Alors dimanche, on s'est souvenu de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus monté sur un ânon, et il y avait toute une foule qui était là à l'entrée de Jérusalem et qui ont déposé leurs propres vêtements, ou alors qui ont coupé des branches et les ont posées au sol. Et Matthieu, chapitre 21, va nous montrer une diversité de réactions de personnes qui étaient présentes. Et la question que j'ai posée dimanche dernier était de savoir, mais quelle aurait été nous, notre attitude, en voyant Jésus entrer à Jérusalem? Quelle aurait été notre pensée? Alors, il y a une diversité de personnes, il y a une foule qui est là, qui est en train de crier. Et chapitre 21, verset 9, cette foule qui crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui au nom, celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais ça, c'est une partie, j'allais dire, hein, la foule qui était là. Par contre, quand d'autres ont vu Jésus arriver, les malades, ils ont cru que Christ pouvait leur donner la guérison et ils ont été guéris. À l'entrée de Jésus à Jérusalem, ils ont été guéris. Par contre, il y a eu des vendeurs dans le temple. Quand Jésus est arrivé là, dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait avec ces vendeurs? Il les a virés. Purement et simplement. Alors c'est vrai que là, quand vous parlez d'exemple, vous allez dire « Ah ouais, je peux me mettre en colère, Jésus s'est mis en colère. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mettez-vous en colère d'une sainte colère et je vous rejoins. Et puis à côté de cela, il y avait des enfants. Et les enfants qui criaient eux-mêmes « Hosanna au fils de David » est-il dit toujours dans ce même chapitre au verset 15. Il y a un certain nombre de questions, peut-être même une seule, une question s'est imposée. Dans quel état est mon cœur? Si j'avais été là, dans quel camp est-ce qu'on aurait pu me trouver? Est-ce que j'aurais été là avec un cœur réellement reconnaissant? Voilà Christ, celui que j'attends. C'est le Messie que mon cœur attend, à la Siméon. Maintenant, je peux mourir en paix parce que mes yeux ont vu mon salut. Est-ce que on m'aurait trouvé en prière, en demandant au Seigneur la guérison? Guérison de nos cœurs, voire guérison de nos corps. Ou est-ce que je n'aurais pas été un peu comme les pharisiens, comme les sacrificateurs? Il est dit un petit peu plus tard que ces gens-là étaient terriblement offusqués. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Regarde ces gosses-là. Enfin, dis-leur d'arrêter. Ils en font un peu trop, non? Et le texte dit bien, ils étaient offusqués. Jésus va rappeler une chose très importante. Est-ce que mon cœur aurait eu la foi de celle d'un enfant qui aurait pu crier « Hosanna » au fils de David? Dimanche dernier, quelle était ma réaction? Est-ce que j'étais réjoui? Est-ce que j'étais tendu? Est-ce que j'étais en prière? Est-ce que j'attendais quelque chose du Christ? Je me souviens aussi que quand Christ est entré à Jérusalem, lui, il a deux pensées. La première pensée, c'est Jérusalem, et il va pleurer sur Jérusalem. Il va pleurer sur le manque de foi de cette ville. Lui, qui est venu pour leur apporter le salut, qui est venu pour être la parole de Dieu pour eux, il est dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem n'a pas compris qu'il avait été visité par Dieu et il va être anéanti un peu plus tard. Quelle était notre pensée dimanche dernier? Vous avez parlé de quoi dimanche? Alors, comme a dit quelqu'un une fois, le culte de dimanche dernier, il était formidable. De quoi ça parlait? Je ne sais plus. On est terrible. Je suis terrible. En plus, je pose la question en sachant très bien que j'ai oublié ce qu'on a dit dimanche dernier. Je vais vous proposer de lire un passage dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jésus est vraiment ressuscité. Pâques, c'est la fête cruciale pour les chrétiens. On s'est souvent appesanti sur Noël, à juste titre, mais Pâques, c'est encore au-dessus. S'il n'y avait pas une Pâques, Noël n'aurait servi à rien, absolument à rien. S'il n'y avait pas eu Pâques, je n'aurais pas pu avoir ma vie transformée par le Seigneur. S'il n'y avait pas eu Pâques, je n'aurais pas d'espérance pour ma propre résurrection. Tout le monde connaît ce passage d'1 Corinthiens 15, qui va nous donner la certitude que Christ est ressuscité, et si Christ est ressuscité, je vais aussi moi-même ressusciter. Comme je le citais dans ma prière tout à l'heure, je me souviens de ce fameux passage de Philippiens, verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Est-ce que la mort vous fait peur? Moi, je l'ai dit une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Le jour où je mourrai, tout le monde sera content. Si. Ceux qui me connaissent et qui savent que ma vie est en Christ diront, mais il est libéré, il est avec le Seigneur. Et ceux qui m'en veulent, ils seront contents aussi en disant, on est débarrassé. Donc tout le monde sera content. Pardon? Quelqu'un m'a appelé, j'entends. Est-ce qu'on est convaincu de la résurrection? Est-ce qu'on est vraiment convaincu? Alors certains discutent un peu du délai dans lequel ça se passe au niveau de la résurrection. On dit assez fréquemment que quand quelqu'un va décéder, on va dire qu'il est auprès du Seigneur. Et puis certains théologiens nous disent qu'il y a un temps où on est endormi avant le jour du retour du Seigneur. Bon, c'est sûr qu'un jour est comme mille ans, mille ans sont comme un jour, et que ce temps de latence est peut-être simplement réduit parce que la notion de temps pour Dieu n'est peut-être pas tout à fait la même que pour nous, peut-être à l'inverse. Ce que j'aimerais voir ce matin, j'ai dit Christ est ressuscité, ça me donne l'assurance de la résurrection. J'ai dit que j'allais voir passer en revue ce qui s'est passé dans la semaine. Et j'aimerais le faire au travers des sept paroles de Christ à la croix. Sept paroles de Christ à la croix. Sept paroles qui sont révélatrices du personnage de Christ. Puisqu'on dit qu'effectivement, les paroles des personnes à leur mort sont quand même quelque chose d'assez capital. Vous avez peut-être déjà entendu parler des paroles des grands hommes de ce monde. Vous avez entendu parler de ce petit fascicule qui était sorti il y a déjà au moins une vingtaine d'années. Les grands hommes et leurs derniers mots. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. C'est intéressant, ça se retrouve sur Internet encore assez facilement aujourd'hui. Je crois que c'est Gilles Georgel qui a ressorti ça il n'y a pas très longtemps. Oui, Jésus aurait laissé ces sept paroles. Et sept paroles qui sont capitales, sept paroles de Christ en croix. Est-ce qu'elles sont tout à fait dans l'ordre? Je vais les donner comme on les trouve en général, puisqu'elles ne sont pas placées dans les mêmes évangiles. Marc va nous révéler que Christ a été crucifié le matin à 9h du matin. Marc 15, verset 25, que les ténèbres sont arrivées à midi et sont disparues à 15h. Et Jésus va mourir après. Jean, dans son évangile, va compter donc. C'est pourquoi quand on regarde les heures, on a l'impression que les heures sont un peu décalées si on lit l'évangile de Jean et les autres, mais il semble que juste Jean va compter les horaires à la manière romaine et les autres évangélistes vont la compter à la manière hébraïque. Mais on dit donc, il a été crucifié à 9h, les ténèbres sont arrivées à midi jusqu'à 15h. Cette parole, la première, l'ordre est aussi à redéfinir peut-être. La première, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. La deuxième, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. La troisième, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Jean 19, 26, 27. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. J'ai soif. Jean 19, 28. Tout est accompli. Jean 19, 30. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. On va les reprendre rapidement. La première, Jésus va nous enseigner d'une manière pratique. Par son vécu, il va nous enseigner le pardon. Il va nous enseigner le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va pardonner à ces bourreaux. Il aurait pu les anéantir. Il aurait pu arrêter le processus. Il en avait le pouvoir. Et certains lui ont même crié, mais si tu es vraiment Dieu, descends de la croix. Vas-y, montre-nous. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, non seulement il était parole de Dieu, et il ne s'est pas borné seulement à l'enseigner, ce qu'il a fait à partir de l'âge de 12 ans, et on le sait très bien qu'il a discuté même avec les grands pontifes de l'époque, mais il a vécu réellement le pardon. Il l'a encore enseigné au travers du Notre Père, qu'on a récité assez souvent, certains le connaissent par cœur, et tant mieux. Quand on est venu questionner Jésus et qu'on lui a demandé le nombre de fois qu'on devait demander pardon, est-ce qu'on doit demander pardon jusqu'à sept fois? Et sept fois pour un juif, c'est une quantité assez importante, c'est pas seulement le chiffre sept. Et Jésus va répondre, pas seulement sept fois, mais 70 fois, sept fois. Certains vont le traduire par 77 fois, sept fois. Matthieu 18, verset 21. Oui, Jésus. Il aurait pu anéantir ses bourreaux dans leur geste de crucifixion. Jésus, il aurait pu anéantir les sacrificateurs ou transformer leurs pensées au moment où ils étaient en train de faire ce faux procès. Non, Jésus, il a gardé sa pensée et sa vie d'amour, et Jésus, il a choisi le pardon. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment est-ce que moi, je vis le pardon envers les autres et envers moi-même? J'ai vu beaucoup de gens qui ont pardonné aux autres et qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes et qui souffrent terriblement à cause de cela. Je ne me le pardonnerai jamais. Vous avez entendu cette phrase déjà? C'est une phrase qui est terrible, terriblement accusatrice. La deuxième chose, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Il y a des gens qui m'ont déjà expliqué qu'il faut peut-être mettre la virgule, peut-être un peu avant ou peut-être un peu après ce mot aujourd'hui. Certains ont dit qu'il vaut mieux le comprendre comme « Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans notre texte, nous, en général, il est écrit « Je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Deux manières de pouvoir interpréter les choses, la finalité sera quand même la même. Ils seront dans le paradis, mais quand on met la virgule d'un côté ou de l'autre, ça explique ce que je mentionnais déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il y a ce temps de latence ou pas? Jésus va prononcer une phrase qui va nous donner à nous la conviction, la certitude du salut. Le salut n'est pas quelque chose d'hypothétique. Le salut n'est pas quelque chose qui viendra peut-être, si je. C'est une certitude. Et c'est ce qu'il a mentionné à ce gars, qui était quand même un truand, qui était reconnu par la justice de l'époque. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce gars qui demandait pardon sur la croix, alors que de l'autre côté, son collègue, qui lui était en train d'hurler par rapport à Dieu, celui qui a demandé pardon, Christ lui-même, dans ce moment fatidique, va lui dire « Tu vas aller au ciel, c'est sûr, c'est sûr. » Il va déclarer qu'il y a un paradis, il va déclarer que le pardon à la croix est terriblement efficace. Il va déclarer qu'on peut donner sa vie à Dieu à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment de sa vie. Ce gars était à deux doigts de mourir. Il a passé sa vie comme une véritable crapule et à deux doigts de mourir. Sa vie va être transformée. Ce qui est intéressant, c'est de nous souvenir de cette parabole des ouvriers dans Matthieu 20. Ce gars, il a eu le même salaire que celui qui s'est converti à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Un denier, le salut. C'est ça l'histoire de cette parabole. Il va déclarer aussi que ce ciel de gloire n'est pas réservé à la Trinité. Que ce ciel de gloire n'est pas réservé, on a fait allusion à l'Apocalypse, n'est pas réservé à ces 24 vieillards ou à ces 144 000. Qui sont les 144 000 hein? Des témoins de Jéhovah, des mormons, des bons évangéliques, des sacrificateurs. Qui sont-ils? Ces 144 000. Non, le ciel est ouvert. À partir du moment où Christ est mort, il y a effectivement ce voile qui a été déchiré dans le temple du haut en bas qui laissait le libre accès dans ce paradis céleste. Formidable. Troisième point. Jésus avait un sens très pointu de la famille. Quand on parle de Jésus, on pense souvent à ce fameux passage de Matthieu 12, à partir du verset 47, où les gens sont venus le voir en lui disant « Écoute Jésus, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors, ils t'attendent. Tu ne peux pas aller les voir. » Et Jésus a dit, « C'est qui, mes frères? C'est qui, ma mère? C'est qui ?» Jésus voulait montrer quel était le cercle familial, spirituel. Et c'est cela qu'il voulait faire comprendre à ce moment-là. On a souvent critiqué Christ en disant, « Sa famille n'en avait rien à faire. » Bien au contraire. Bien au contraire. On sait aussi qu'à cette époque-là, quand Jésus a cité cette phrase, ses frères, ses demi-frères, je dirais, ne croyaient pas en lui, et c'est après sa mort qu'ils ont fini par comprendre qu'il était vraiment le Messie envoyé de Dieu. Jésus va montrer dans cette phrase, femme, voilà ton fils, et à Jean, voici ta mère. Jésus a gardé le sens véritable de la famille dont il voulait s'occuper. Jean, est-ce que tu peux prendre soin d'elle? Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas la CAF, il n'y avait pas la sécurité sociale, on ne vivait pas les choses de la même manière qu'aujourd'hui, même si c'est encore difficile aujourd'hui pour les veuves. Mais là, il y avait donc cette notion de famille qui avait été pensée encore par Christ et il ne l'avait pas négligée. Quatrième, Élie, Élie, lama sabachthani. Certains disaient, il appelle Élie. Mais non, la phrase était encore plus cruciale. Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais alors si c'est la Trinité, pourquoi? Pourquoi y avait-il abandon? C'est même pas possible à imaginer. C'est le psaume 22, verset 2 qui va, ou plutôt Jésus va faire appel à cette phrase, psaume 22, verset 2, qui dit exactement la même chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Quand Jésus a crié cette phrase, c'est qu'il portait les péchés des autres, pas les nôtres. Pas les nôtres, hein? Les péchés des autres. Parce que quand il y a une faute qui est faite, c'est toujours de la faute de l'autre. Je suis très content que tu aies lu Ésaïe 53. J'avais marqué ça dans mes notes, donc je ne vais pas le lire. Merci de m'avoir précédé. Mais Ésaïe 53 va dire qu'à la croix, Christ a vraiment porté nos péchés, et nos péchés amènent toujours à cette même réalité, le péché, d'où qu'il vienne, le péché amène la séparation d'avec Dieu. Quel que soit le type de péché. Christ, à ce moment précis, a été séparé de son Père parce qu'il portait mon péché à la croix. On appelle cela la substitution de Christ envers nous. Substitution de Christ envers nous. Séparation du péché. Cinquième chose. J'ai soif. J'ai soif. Je vais citer un mot que je viens d'apprendre. Alors, c'est toujours pareil, quand on a un mot qu'on vient d'apprendre, on le cite et puis après on l'oublie. On va parler de la spécificité de Jésus hypostatique. Qui a déjà entendu parler de ce mot hypostatique? Hypostatique. J'ai soif. Hypostatique, qui veut simplement dire, et les théologiens ont toujours des choses assez intéressantes qu'on oublie tout le temps, toujours qu'ils mettent des mots pour qu'on sache de quoi on parle, qui veut dire simplement 100% Dieu, 100% homme. Les deux à la fois. Alors notez bien, hypostatique, mettez-le sur un petit papier, mettez-le dans votre Bible, et puis après vous ne saurez plus ni ce que veut dire le mot, ni où vous avez mis le papier. En général, c'est comme ça. Moi, j'ai recherché sur mon ordinateur. Là aussi, on pourrait dire qu'il y a une contradiction. Jésus va s'adresser à la femme samaritaine et va lui dire, t'es venu chercher à boire, je t'ai donné à boire, toi t'es venu chercher à boire, mais t'inquiète pas, je suis la source d'olive. Moi, j'aurais été de la femme samaritaine et dit, écoute, c'est pas très carré ton affaire. T'es la source d'eau vive et tu me demandes à boire. Quelque chose qui n'est pas logique. Et voilà, maintenant, il est sur la croix et même chose. Ce Jésus lui-même va encore demander à boire. J'ai soif. Mais Jésus va bien montrer qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Une des choses qui n'est pas possible de pouvoir mettre dans notre esprit cartésien, mais qui est pourtant une grande réalité. Jésus est dans une situation terriblement difficile. On n'a qu'à l'imaginer quelques minutes. Jésus est dans sa pleine humanité souffrante. Il est là sur la croix. Les clous font mal, encore au niveau des pieds. Il y a l'étouffement. 6 heures sans manger et sans boire, probablement au soleil. Le dos lacéré, et ça fait mal, appuyé contre la croix. Et puis, la couronne d'épines plantée dans la tête. Et comme je disais tout à l'heure, étouffement, voir quelqu'un qui étouffe est atroce. C'est pas une promenade. C'est pas une promenade. C'est une vraie souffrance au plus haut degré de l'échelle de la souffrance. Il y a toute son humanité qui souffre. Mais il y a aussi une autre partie de lui qui va souffrir. Qui va croire en moi? Il a pleuré en entrant à Jérusalem. Ne l'oublions pas. Sa spécificité, il est la source d'eau vive, spirituelle, mais de l'autre côté, pleine humanité, j'ai soif. Sixième chose, tout est accompli. Tout est accompli. Et là, je parle de la soumission de Christ. La soumission de Christ. Jésus, peu de temps avant, Matthieu 26, verset 39, qui était en train de prier. On a dit qu'il y avait aussi des grumeaux de sang qui sortaient de sa tête. Et il a dit cette phrase, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. » Il savait vers où il allait. Il savait la souffrance qu'il allait devoir endurer. C'était quelque chose, dans sa pleine humanité, difficile à supporter. Mais il a déclaré cette phrase pour pouvoir dire « Tout ce que tu veux, Seigneur, je le ferai par amour pour toi et pour eux. Pas ta volonté, pas ma volonté, pardon, mais la tienne. » Cette parole n'enlèvera pas la Trinité ni la divinité de Christ. Dieu n'est pas supérieur pour autant. Mais Christ avait une mission particulière, aller jusqu'au bout. Septième point. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et j'ai parlé du don de sa vie ou du don de soi. Du don de soi. Hébreux 10, verset 11 va dire... Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alors, la chose que j'aimerais déclarer ce matin, c'est on n'a pas tué Jésus. Vous êtes d'accord? On n'a pas tué Jésus. Mais il s'est offert en sacrifice. On n'a pas tué Jésus, mais il s'est offert en sacrifice. Comme diraient d'autres, on n'a pas mis quelqu'un d'autre à sa place pour faire croire à une résurrection. Il est bien mort. C'est l'islam qui va nous dire cela, ou les musulmans vont nous dire ça. On a mis quelqu'un d'autre à sa place. Non. Il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert. Souvent, on est venu me poser la question, alors c'est qui? C'est les Juifs ou les Romains? Ce ne sont pas les Juifs manipulés qui l'ont tué. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est offert en sacrifice. D'accord? Ce ne sont pas non plus les Romains qui ont mis les clous, et encore moins Pilate qui s'en est lavé les mains, sur conseil de sa femme, divinement avertie. Ce ne sont pas les Romains. Pourquoi? Parce que il s'est offert en sacrifice. Cette parole du Christ en exemple pour nous qui doivent nous aider à recentrer notre relation avec Christ. Je peux prendre tous les cas hormis la spécificité hypostatique. Ça doit remettre aussi ma question. Ça doit me remettre en question. Quel est le sens de la famille que j'ai? C'est bien à cause de mes péchés qu'il a été séparé du Père. Mes péchés me séparent de Dieu. Le pardon, comment est-ce que je le pratique? Ma certitude du salut, comment est-ce que je la vis? Et la soumission par rapport à Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Je vais vous annoncer une chose ce matin. Que vous connaissez déjà. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Et s'il a vécu tout ça comme exemple pour nous, il l'a fait aussi pour nous apporter la véritable vie et la certitude qu'on va ressusciter. La certitude qu'on va ressusciter. Les apôtres en ont été témoins. Les femmes en ont été témoins. La mère de Jésus en a été témoin. Si on relit le début du chapitre 15, et peut-être qu'on va le faire, je ne sais pas si on a encore quelques minutes. On a jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'est ça ? 1 Corinthiens 15, ça sera ma dernière parole de ce matin. Essayez de démontrer à quelqu'un la véritable résurrection qui s'est produite en Christ est quelque chose de difficile. Suffit d'ouvrir le journal et de lire. 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais déjà aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, donc à Paul, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il dit un petit peu plus loin, « Si c'est dans cette vie, verset 19, seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. »